Vous pouvez retrouver ce podcast au format vidéo sur notre chaîne YouTube Padre Blog. Bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Café Avec. Et aujourd'hui, on est avec le père Ramzi Saadeh pour parler de l'islam et des musulmans qui se convertissent au christianisme. Bonjour Ramzi.
Bonjour.
Tu es prêtre du diocèse de Paris, prêtre de l'Emmanuel depuis 4 ans, c'est ça?
C'est ça. C'est ma cinquième année.
C'est ta cinquième année qui commence. Et ta passion, c'est de prendre soin des musulmans qui se convertissent au christianisme, de les accompagner, de les fortifier dans cette étape de leur vie. Et donc, on voudrait parler ensemble aujourd'hui un peu de cette mission et puis aussi des relations que les catholiques et puis de l'image que les catholiques ont de l'islam dans leur tête pour pouvoir aussi avancer. Et donc, on va s'appuyer sur ta vie, sur ta mission, sur ton expérience. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parte de ceux que tu accompagnes au quotidien. D'abord, pour qu'on prenne conscience de la réalité, est-ce qu'il y a beaucoup de conversions de l'islam vers le catholicisme?
Aujourd'hui, il y a énormément de conversions de personnes qui étaient musulmanes vers le christianisme.
Ouais.
Je ne dirais pas simplement vers le catholicisme, parce que pour un musulman qui découvre le Christ, il est au courant de rien des différences entre les catholiques, les protestants ou autres. Pour lui, il rencontre Jésus et ça change sa vie. Ça change sa perception des choses. Et on voit bien, comme au début de l'évangile, il y a des apparitions, il y a des songes, il y a des choses qui se passent directement entre Dieu et les personnes. Et Dieu nous les envoie pour qu'ils puissent avancer. Donc, il y a eu beaucoup de temps depuis le 7e siècle jusqu'au 20e siècle, je dirais, où nous n'avons pas des registres ou des informations sur des conversions. C'était presque nul, on va dire. C'est depuis le XXe siècle qu'on voit une poussée exponentielle de conversion de musulmans vers le christianisme, due en particulier, je pense, à Internet, à la traduction aussi du Coran dans d'autres langues.
Et de la Bible.
La Bible en arabe, ça existe depuis très longtemps, ouais. Depuis que les chrétiens d'Orient existent, mais les musulmans n'avaient pas accès à cela.
Ouais.
Aujourd'hui, je pense que les musulmans ont beaucoup plus facilement accès à la parole de Dieu. Et je pense qu'il y a un kairos, il y a un moment favorable qui est en train de se passer, c'est que Dieu se révèle aujourd'hui en direct à beaucoup de musulmans.
Tu as un témoignage ou un exemple voilà, d'histoire qui te vient au cœur, là, puisque tu en accompagnes
Moi, j'ai beaucoup d'histoires de songes qui se sont passées, de personnes qui ont eu des rencontres. Je connais même certains qui étaient salafistes avant et qui ont vu Jésus et qui ont compris d'un coup qu'ils étaient à côté de la plaque et que c'était Jésus. Ça a transformé leur vie.
Et Jésus dit quoi à un salafiste pour changer sa vie? Il lui dit « Viens, suis-moi ».
En fait, le salafiste qui veut vraiment suivre Dieu, hein, c'est ça. Hein, quelqu'un qui vit, qui cherche Dieu profondément et qui devient radical, on va dire, parce que il a une mauvaise image de Dieu. Quand il rencontre le Christ, il comprend que Dieu ne voudrait pas ça, que Dieu ne... En fait, il guérit les blessures parfois qui le mènent à être violent et ça change tout dans ses relations, dans sa manière de voir, dans sa vie. Et normalement, il vient n'importe où, il y a une croix.
Ouais.
Il va aller pour connaître plus qui est Dieu.
Donc tu veux dire que le musulman qui se convertit, c'est parce qu'il a déjà dans toute sa vie une grande soif de Dieu, une grande soif d'être fidèle à Dieu, que quand il comprend que le Christ, c'est vraiment le Fils de Dieu, alors ça lui donne envie d'avancer. C'est ça le ressort, enfin, parce que le musulman, il appartient à ce groupe social hyper fort, avec des liens les uns avec les autres qui sont aussi puissants, pour quitter ça, pour aller vers le Christ, pour aller vers le christianisme. Avec toutes les complications aussi qu'on connaît, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment eu tout d'un coup la perception qu'il y a plus de vérité, que le reste c'était faux. Ou... Pourquoi on quitte
en fait? Il n'y a pas qu'aux musulmans de se convertir. Hein.
Ouais.
Moi personnellement, je pensais être chrétien. J'ai vécu 30 ans comme païen, mais en pensant que j'étais dans la vérité. Et le 15 août 2002, j'ai rencontré le Christ et ça a transformé ma vie. Tout homme, toute femme, toute personne a vocation de faire une rencontre dans sa vie avec la vérité qui est une personne divine, qui est Jésus et qui transforme la vie. Donc, moi, c'est cette phrase qui m'a toujours habité, celui qui cherche Dieu de tout son cœur le rencontre. Et je suis convaincu que quelqu'un qui cherche Dieu, Saint Paul aussi cherchait Dieu.
Oui.
Saint Paul voulait faire la volonté de Dieu, il était violent. C'était une sorte de salafiste, on va dire, de l'époque. Mais Dieu est apparu à saint Paul et a transformé sa vie. Et je pense que chacun de nous qui a un vrai désir authentique de chercher Dieu à un moment, s'il n'a pas les moyens de le trouver dans la société, à travers les gens qui sont autour, Dieu peut intervenir directement. Et je pense que c'est pour cela, moi, les personnes qui travaillent avec moi et qui accueillent les personnes qui sont touchées par le Seigneur sont jalouses. Elles me disent souvent, mais pourquoi Dieu apparaît aux musulmans, il ne nous apparaît pas à nous? Ben parce que nous, on a les moyens. On a les sacrements, on a la parole de Dieu, on a la possibilité d'avancer, on sait où chercher. Ben, beaucoup de musulmans ne l'ont pas. Ils sont dans une sorte de bulle de laquelle ils ne peuvent pas sortir.
Et donc c'est Dieu qui rentre dans la bulle.
Et c'est Dieu qui rentre, qui touche Dieu. Quelqu'un dans la bulle, pas nécessairement pour lui, mais pour que, à terme, comme saint Paul, il puisse aussi transmettre cette parole aux personnes qui sont autour de lui.
Mais tu veux dire que les interventions un peu spectaculaires de Dieu dans l'ordre mystique sont aussi liées à cette impossibilité par les moyens humains normaux que les cœurs soient touchés dans la bulle de l'islam?
Moi, je le crois. Je crois que quand Dieu touche une personne, ce n'est pas nécessairement simplement pour cette personne. C'est que cette personne a une mission. Et cette mission, c'est de devenir lumière. Hein. C'est ce que nous a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On n'a aucun avantage, on n'est pas meilleur que n'importe qui d'autre. Mais nous, on a accès à la bonne nouvelle. Et notre rôle, c'est de devenir lumière pour que les autres aient accès à cette bonne nouvelle. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que nous, chrétiens, on ferme la porte, en fait, aux musulmans qui souhaitent avancer vers...
Bah justement, c'est la question moi, que je voulais te poser ensuite, c'est... Voilà, on a des frères et sœurs qui viennent vers nous parce qu'ils ont été touchés par le Christ, ils sortent de l'islam et c'est souvent très compliqué dans le contexte culturel, familial qui est le leur. Nous, comment est-ce qu'on peut vraiment les accueillir comme des frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux aider et mieux accueillir les frères et sœurs musulmans qui viennent, qui se sont convertis?
Moi, c'était ça la prise de conscience que j'ai eue à la rencontre des convertis au début, quand j'ai commencé à les rencontrer, à poser des questions. Je me suis rendu compte qu'ils étaient blessés doublement. Ils étaient blessés en premier lieu parce qu'ils étaient rejetés en majorité, pas tous, hein, y a des gens où ça se passe bien, mais en majorité, ils sont rejetés par leur famille, par leur communauté, du moment où leur famille sait qu'ils avancent vers le Christ. Et il y a une autre blessure, c'est du rejet de la communauté chrétienne. Plusieurs personnes m'ont témoigné d'être passées dans une église pour demander le baptême ou demander comment on fait pour devenir chrétien. Et des chrétiens, ceux qui sont à l'accueil ou même des prêtres, par exemple, qui leur ont dit « Mais non, approfondis le Coran, l'islam aussi c'est une voie de salut, ici on ne baptise pas les musulmans, il n'y a pas besoin de venir dans une église. » Et en fait, ils se sont sentis vraiment rejetés par les chrétiens, et même ça va beaucoup plus loin. Certains qui ont intégré le catéchuménat sont restés considérés comme des musulmans, parce qu'il y a un vrai problème, je pense, ici en Occident, c'est qu'au niveau du christianisme, on va distinguer très très fortement la foi et l'identité, qui est très bon. Mais pour les musulmans, on va continuer à les considérer musulmans, même quand ils sont déjà chrétiens au catéchumène. Il y a une personne il y a quelques mois qui est venue me voir, elle m'a dit « Mon père, j'ai quitté ma paroisse. » J'ai dit « Mais pourquoi t'as quitté ta paroisse ?» Elle m'a dit « Mon père, ça fait 3 ans que je suis baptisé et dans ma paroisse, on continue à me présenter comme la musulmane. »
Oui. Et comme si on avait ingéré la notion de Ouma et qu'on ne peut jamais en sortir. Quoi.
Comme si c'était une identité, en fait. Et quand on voit une personne qui est d'origine musulmane, on va, pour bien l'accueillir, pour qu'on lui montre qu'on s'intéresse à elle, on va lui poser des questions sur l'islam, sur son identité, sur les cultures, parce qu'on mélange un petit peu la culture, l'identité, la foi ou autre. Et la personne, elle va se sentir blessée parce qu'en fait, elle est chrétienne. Comme anecdote, même moi, qui suis en col romain, il m'est arrivé d'aller...
Parce que tu es Libanais.
Parce que je suis Libanais, et d'aller chez des gens et être invité à déjeuner chez des personnes et qui me demandent est-ce que tu manges du porc.
Est-ce que tu bois de l'alcool.
Et donc, en Occident, en fait, on a un peu assimilé le fait que tous les orientaux, ils ont des règles qui sont les règles de l'islam.
Et du coup, ça nous conduit à travailler aussi le rapport que nous, les catholiques, ici en Occident, on entretient avec l'islam. Il y a des écueils que tu rencontres. Quelles sont les principales erreurs des catholiques quand ils se mettent à dialoguer avec un musulman? Pour le coup, pas un musulman converti, mais un musulman déjà.
La première erreur que beaucoup de catholiques font, c'est que quand ils voient un musulman, parce que comme lui, il affiche sa foi, les catholiques ne l'affichent pas. Beaucoup de musulmans pensent qu'il n'y a plus de catholiques en France parce qu'ils travaillent avec des personnes en entreprise, mais ils ne savent pas qu'ils sont catholiques. Pourtant, eux, ils vont l'affirmer quand ils font le ramadan, quand ils le disent très fièrement, parce que pour eux, ils ne font pas la différence entre la foi et l'identité. Et donc, la première chose pour les catholiques qui est importante, c'est de ne pas avoir honte de sa foi. Quelqu'un qui a honte de sa foi n'est pas un sujet d'annonce pour un musulman. Ça veut dire aujourd'hui, la plupart des conversions des personnes qui sont touchées ou qui ont cheminé, c'est par exemple au Sacré-Cœur de Montmartre parce que les sœurs sont en habit. Quand ils voient quelqu'un en habit, quand ils voient quelqu'un en soutane, quand ils voient des sœurs qui sont chrétiennes, ils vont aller vers elles parce qu'ils sentent qu'elles n'ont pas honte d'être chrétiennes. Donc la première chose, c'est de ne pas avoir honte d'être chrétien. La deuxième, quand un chrétien rencontre un musulman, en général, il va lui dire « Ah, ben, on a la même foi, on a le même Dieu, c'est super, vous priez. » Et puis, il va chercher automatiquement les terrains qui sont un peu pareils.
Les terrains d'entente.
On a Jésus en commun, on a Marie en commun.
Comme si on avait peur d'aller sur les différences et sur le conflit, parce qu'il peut y avoir...
La tension. Et exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que quand on dit à un musulman... Parce que c'est ce qu'il cherche à entendre en général.
Bien sûr.
Et c'est ce qu'il va nous pousser. Exactement. Il va nous pousser à dire, mais on a le même Dieu, on a la même foi. Mais quand nous, chrétiens, on dit à un musulman qu'on a le même Dieu ou qu'on a la même foi, on lui ferme la porte. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il comprend ? Lui, pour lui, ça va être très clair. Il n'y a plus rien à chercher chez les chrétiens. Parce que pour lui, on lui a toujours dit que tout ce qui est dans le christianisme est déjà dans l'islam, est déjà dans le Coran. Donc, il n'y a pas besoin d'aller poser des questions chez les chrétiens. Donc, quand nous, on lui confirme cela... Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un seul Dieu. Il y a bien sûr un seul Dieu, mais on a des perceptions différentes de Dieu. Mais cette parole qui dit « on a le même Dieu », pour un musulman, ça se comprend qu'on a la même perception de Dieu, on a la même foi.
Comme le Coran et après la révélation chrétienne, bah, s'il nous dit qu'on a la même chose, ça veut dire que je n'ai rien à chercher de spécifique.
Exactement, et c'est ce qu'il comprend.
Du coup, qu'est-ce qu'on lui dit quand il nous dit, par exemple, bah, on a le même Dieu?
Ce que je tends à dire, c'est que on n'a pas du tout le même Dieu, on n'a pas du tout la même perception de Dieu. C'est très différent. Et j'attends, en fait, je tends une perche, parce que quand on dit cela à un musulman, ça le fait réfléchir. Et puis, il va revenir, parce qu'on lui a toujours dit qu'on avait la même perception de Dieu. Donc, quand nous, les chrétiens, on lui dit ça, il va chercher à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est nous qui nous sommes trompés? Donc, il va essayer de nous convaincre qu'on a la même perception de Dieu. Et ça va créer des discussions très intéressantes. C'est là que ça va se jouer.
Et il y a des tensions dans ces discussions. Souvent, nous, les Occidentaux, on a peur des tensions. Pour un Oriental, la tension, c'est la vie.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Pourquoi un Occidental, directement, il va partir sur ce terrain? Mais je pense que c'est très, culturel.
Oui.
Moi, quand je suis arrivé en France, dans les formations en entreprise, c'était toujours la communication non violente, c'était de ne pas être en conflit avec celui qui est en face de nous, d'être toujours de chercher un terrain d'entente.
Qui apaise.
C'est ça. Ouais. Mais pour un oriental, si la discussion n'est pas tendue, c'est qu'elle n'est pas intéressante.
Ouais,
je ne sais pas si tu as déjà entendu des gens parler au téléphone, des orientaux parler au téléphone, c'est tendu.
On dirait qu'ils s'engueulent. Hein.
Mais parce que ça fait partie de notre ADN de s'engueuler. Mais ce n'est pas un problème de s'engueuler, c'est au contraire, c'est qu'on va chercher à se comprendre. Et ça joue là-dedans, il ne faut pas avoir peur que ça soit tendu. Il faut qu'on sache faire baisser la tension. Ça veut dire, quand je dis à un musulman, on n'a pas le même Dieu, il va me dire, mais non, mais parce que tu ne connais pas le Coran. Moi, en général, quand je suis un arabe oriental, je vais lui dire, bah, si, je connais, j'ai déjà lu en arabe, et donc... Et quand il me dit, mais non, mais Mohammed, c'est nous, on reconnaît Jésus. Je dis, non, vous ne reconnaissez pas Jésus. Jésus n'est pas le même. Et ça n'est pas Jésus. Et ça n'est pas mort sur la croix. Et ça n'est pas Dieu. Donc, ça ne sert à rien de dire que c'est Jésus, puisque pour nous, Jésus, c'est Dieu qui est mort, il est ressuscité. Oui. Donc, Marie, elle n'était pas libre dans l'islam, même si on vous parlait de Marie. Mais nous, si on enlève le oui de Marie, la liberté de Marie de dire oui à Dieu, toute la théologie mariale, elle saute. Donc, quand on va rentrer dans les détails, bien sûr que ça va tendre, parce qu'on va lui dire que Mohammed, pour nous, n'est pas un prophète chrétien. Il n'y a plus de prophètes, on est tous prophètes après Jésus. Donc, ce n'est plus du tout, il n'y a plus rien à découvrir après la venue de Jésus. Donc, bien sûr que ça va tendre la discussion. Moi, ce que je fais quand je sens que ça se tend, souvent je vais chez des coiffeurs, chez des personnes qui sont musulmanes et on discute et ça se tend. La discussion...
Il y a le rasoir.
Ça m'est arrivé une fois que d'avoir le rasoir devant le cou et le type un peu rouge parce que ça... mais je dis toujours, je te demande pardon si j'ai dit quelque chose qui peut te blesser, mais je ne vais pas te mentir. Est-ce qu'on peut s'aimer? Est-ce qu'on peut s'apprécier, même si on pense, on a une foi différente et on pense différemment? Et là, ça réduit la tension directement. La première chose à apprendre, en tout cas à transmettre à nos frères musulmans, c'est qu'on n'est pas obligé de penser pareil.
C'est ça.
On n'est pas obligé d'avoir la même religion pour s'aimer et pour s'apprécier. Et c'est humain, c'est Fratelli Tutti. Sur quoi on peut être d'accord humainement? Est-ce qu'on peut être frère humainement avant de parler de Dieu?
Mais, donc ça, c'est plus comment entrer en discussion avec un musulman. Et à un moment, comment est-ce qu'on annonce l'évangile? C'est quoi qui peut ouvrir des portes dans son cœur pour que plus tard, ce musulman, cette musulmane se dise « Mais en fait, dans cette discussion, il y a un truc qui s'est ouvert en moi. Qu'est-ce qu'on sème? Comment on fait pour semer ?»
En fait, tout dépend, mais comme les musulmans et comme avec d'autres que les musulmans. Hein, il n'y a pas une règle spécifique pour les musulmans. La première chose, c'est d'aimer la personne.
Ouais.
Si je n'aime pas la personne qui est en face de moi, ça ne sert à rien de lui annoncer l'évangile. Et moi, si je suis dans une tristesse et que je fais un visage de mort, ça ne sert à rien d'annoncer l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui rend heureux. Donc déjà, par la joie que j'ai, par l'amour que j'ai pour l'autre, le fait de l'écouter, de l'apprécier, de le considérer pour ce qu'il est, c'est déjà une annonce de l'évangile. Maintenant, face à moi, il y a plusieurs types, parce qu'il n'y a pas un islam, il n'y a pas un musulman, il y a des personnes.
Oui.
Et il faut parler avec les personnes et voir où est-ce qu'elle en est. Bien sûr, il y a certains musulmans qui sont plutôt chrétiens. J'ai rencontré des personnes qui croyaient que Dieu est amour, que Dieu les aime, qui ont même rencontré Jésus, qui ont une relation authentique avec Dieu, mais parce qu'ils ont des amis chrétiens, parce qu'ils étaient dans des écoles chrétiennes et qu'ils étaient au catéchisme. Et en fait, ils ont une relation avec Dieu qui est très belle. Là, pour ces personnes-là, il faut les aider à connaître que cette relation, elle peut encore grandir et qu'ils peuvent l'approfondir dans l'évangile, dans les sacrements et qu'ils peuvent encore faire un pas. Et là, il faut parler de sa propre expérience, de sa relation avec Dieu et peut-être les accompagner à faire partie d'une communauté chrétienne, même s'ils ne sont pas encore chrétiens, mais de pouvoir partager, de pouvoir voir des gens avec qui ils vont partager leur relation.
Oui.
Après, il y a des musulmans de l'autre côté qui sont complètement fermés, ça veut dire des gens qui sont des écoles, des frères musulmans, des salafistes ou des gens qui croient qu'eux, ils ont la vérité. Ils ne vont pas nous écouter. Donc, en général, ça ne sert à rien de raconter des choses parce qu'ils ils sont dans leur monde, dans leur bulle. Et ils ne sont pas prêts à écouter. Là, c'est très différent de percer. On peut bien sûr prier pour eux. Mais là, il y a beaucoup de techniques, on va dire. On peut aussi aller sur le terrain un petit peu de l'islam pour poser des questions. Mais ça, il faut un peu connaître. Il faut s'y connaître, il faut se former pour poser des questions et voir avec eux est-ce que ce qui se dit comme révélation, en tout cas musulmane, apporte quelque chose de plus à l'humanité. Qu'est-ce qu'ils connaissent et est-ce qu'il y a des contradictions? Et comment ça se fait que nous, les chrétiens, on a des choses en plus?
Donc, entre ce musulman presque chrétien par la culture chrétienne qu'il a reçue, ce musulman enfermé dans sa bulle, au milieu, il y a aussi peut-être...
Il y a la majorité des musulmans. Moi, je dirais qu'il y a 80% des musulmans qui n'ont jamais lu le Coran, qui connaissent l'islam par ce qui lui a été transmis.
C'est une culture.
C'est plutôt une identité. Hein. C'est vraiment l'identité. En fait, l'islam n'est pas simplement une croyance. L'islam est un mode de vie, ça veut dire le fait de plus manger halal, le fait de... C'est un mode de vie global et c'est une communauté. Quand on dit qu'on n'est plus musulman, bon, en fait, on perd tout.
Oui.
On perd la communauté en premier lieu parce qu'on va être rejeté de la communauté, mais on va petit à petit aussi, et c'est ce que je remarque, hein, les convertis qui viennent de l'islam font souvent des dépressions à un moment, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans après leur conversion, leur baptême, parce que des fondements qu'ils avaient, sur lesquels tout est basé, que tout est un, s'ébranlent. Parce qu'ils ont l'impression parfois d'avoir rejeté leurs grands-parents, rejeté leur identité algérienne, libanaise ou tunisienne, qu'ils ont rejeté leur culture. Et tout le travail que nous faisons, c'est d'aider ces personnes de s'en sortir en comprenant que non, pas du tout. Leur culture, elle est très belle. Il y a la culture orientale. C'est pour ça que parfois, on fait des choses en arabe. Parfois, on va aller chez les maronites pour célébrer une liturgie en arabe. Et c'est aussi une erreur qui se passe souvent dans les églises, parfois catholiques, souvent chez les tradis. C'est de vouloir transformer un converti qui vient de l'islam en un occidental. Ça veut dire qu'il doit parler latin, il doit faire des choses, il doit devenir, il doit aimer tout ce que la culture chrétienne occidentale a mis en place. Et non, ce n'est pas nécessaire.
Alors qu'il y a une culture chrétienne orientale aussi.
Exactement. Il faut qu'il purifie ce qui est bon, la culture, l'identité, l'appartenance à un pays. C'est bon, c'est pas mauvais. Il doit purifier de certaines choses de croyances qui n'étaient pas ajustées.
Ouais.
De ne pas connaître que Dieu est amour, que ne pas connaître que Dieu lui pardonne tous ses péchés, de ne pas savoir que Dieu n'est pas là juste pour nous juger, que c'est pas par notre force de faire les choses qu'on va arriver à satisfaire Dieu, que Dieu est premier. Tout cela est important à reconnaître. Et après, il y a des purifications à faire toute notre vie.
Toute notre vie, mais comme pour chacun d'entre nous. À partir de ce que tu viens de dire, là, ça nous emmène aussi sur le terrain de l'Église et de la culture. Toi, tu es Libanais, tu as vu comment l'Église se met en relation avec l'islam dans un pays où l'islam est devenu majoritaire. Chez nous, ce n'est pas du tout ça. L'Église, elle se met en dialogue avec un islam qui est minoritaire. Comment ça joue sur des différences? Qu'est-ce qu'il faut sortir de ça?
Il y a une vraie question sur ce sujet, parce que souvent, quand je fais des conférences dans des paroisses ou autres, il y a des Occidentaux qui n'arrivent pas à faire la distinction entre islam, ça veut dire la religion en elle-même, ce que dit le Coran, le Hadith ou autre, et les musulmans. Moi, quand je dis quelque chose, par exemple, sur l'islam, automatiquement, il va y avoir, même mon père, moi, j'ai une amie, qui croit ça. Je dis, mais c'est pas, je ne parle pas de votre ami, je parle de ce que dit le Coran, par exemple. Et donc, ce n'est pas à nous de juger qu'est-ce qui est le vrai islam. Ce n'est pas à nous, chrétiens, ou aux gens, en tout cas, de l'État, de dire que ça, c'est le vrai islam et ça, c'est le faux islam. C'est laissons aux musulmans
le soin
de se définir eux-mêmes. Et ce qui se passe souvent, c'est que les Occidentaux vont voir la relation entre les musulmans et les chrétiens à partir des lunettes orientales.
Oui.
C'est souvent des gens qui ont vécu en Algérie, qui ont été missionnaires en Tunisie ou en Iran ou autre.
Et qui disent, là-bas, ça se passait bien.
Et ils vont dire, oui, mais mon père, là-bas, ça se passe très bien. Les chrétiens n'annoncent pas l'évangile et ça se passe très bien. Mais si nous, en France, où il y a la liberté de religion, où il y a la liberté de conscience, on fait ça, on est mort. Parce que les chrétiens d'Orient, ils aimeraient bien annoncer l'évangile. Ils aimeraient bien pouvoir ouvrir les portes pour que toutes les personnes, tous leurs amis connaissent Jésus.
Mais ils n'ont pas le droit.
Ils n'ont pas le droit, parce que s'ils le font, ils disparaissent. Et c'est pour ça que dans ces pays-là, le catholicisme ne baptise pas, parce que le catholicisme est une église. Et si une des églises baptise officiellement, bah c'est toute l'église catholique qui va être expulsée et anéantie. C'est pour ça que ce sont les protestants, les évangéliques, qui baptisent le plus. En Kabylie, il y a des villages et des villages qui sont devenus tous évangéliques. Parce que les évangéliques n'ont pas une église. C'est des personnes qui viennent, qui annoncent le Christ. Il y a des conversions, il y a des personnes qui rencontrent le Christ et qui demandent le baptême. Ils sont baptisés et l'État essaye de faire une lutte contre eux. Et ce n'est pas que l'État, parce que c'est des familles aussi. Le premier danger, on le voit par des Iraniens qui viennent ici ou des Algériens. Moi, j'ai plusieurs personnes qui ont risqué leur vie, qui ont risqué la mort, qui ont tout perdu, non pas à cause de l'État, mais à cause de leur famille propre. Une fille m'a dit, même une fille française m'a dit, qui a été baptisée l'année dernière, après son baptême, elle m'a regardé, elle m'a dit, mon père, elle est française, elle est née en France, elle est d'une famille d'émigrés, mais bien longtemps, elle m'a dit, mon père, si ma famille le sait, elle me tue. Et donc, il y a un vrai danger pour les personnes. Et donc, si nous, les chrétiens, en France, l'Église en France n'annonce pas que c'est important la liberté religieuse. C'est le cheval de bataille de toute l'Église. Après Vatican II, la liberté religieuse, c'est la clé pour les chrétiens comme pour les musulmans. Ça veut dire comme pour toute personne. Si on ne peut pas choisir, si Dieu ne nous laisse pas la liberté de le rencontrer et si l'amour n'est pas libre, il y a un vrai problème.
Du coup, c'est aussi une invitation pour nous, chrétiens, ici en France, à ne pas nous penser comme minoritaires en face d'un islam qui serait majoritaire, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. À cause de cette liberté de conscience, en réalité, les coordonnées du problème n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Algérie ou au Liban ou dans les pays musulmans et pays arabes.
Non seulement ça n'a rien à voir, mais nous, le Christ, il ne nous a jamais dit que vous allez être majoritaire. Nous, on ne cherche pas le nombre, on ne cherche pas le chiffre. Dieu nous a dit, n'ayez pas peur, petit troupeau.
Ouais.
On sera un petit troupeau. Ce n'est pas grave si on n'y a pas beaucoup de chrétiens. Ce qui est important, c'est que ce petit troupeau soit lumière du monde, soit celle de la terre.
Il annonce, il baptise.
Mais nous, le baptême, ce n'est pas une phrase comme dans l'islam. On ne va pas dire une phrase et devenir musulman. Nous, le baptême, c'est 2 années. C'est une galère pour les convertis. Ils viennent, ils veulent le baptême.
Mais
pour moi, c'est vraiment une grande épreuve de leur expliquer, de passer du temps avec eux, de leur dire non, le baptême n'est pas un but en soi. Le baptême, c'est une des étapes de la démarche chrétienne et de ce chemin chrétien qui va passer toute votre vie. Dieu est en train d'agir, vous êtes en relation, vous êtes déjà chrétien parce que vous êtes en relation. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec le vrai Dieu, avec Jésus-Christ, qui est Dieu. Et donc, vous avez déjà cette relation. Et là, maintenant, vous allez purifier, vous allez grandir en liberté, parce que accepter le baptême, vous êtes en train de vous engager totalement dans ce chemin. Et ça demande du temps.
Ouais.
Vous allez grandir en liberté. Donc, ce n'est pas le but. Si l'Église vous dit que vous allez être baptisé dans 5 ans ou peut-être dans 6 mois, ben c'est très bien. Vous accueillez ce chemin de Dieu et Dieu s'occupe déjà de vous. Donc, le but, ce n'est pas de faire du chiffre. On ne va pas baptiser rapidement. Celui qui ne veut plus venir, il est libre de ne plus venir. C'est très bien. C'est la liberté des enfants de Dieu. Mais il faut que aussi de l'autre côté, il y ait aussi cette liberté des enfants de Dieu. Et la liberté religieuse doit être vraiment la clé de notre dialogue avec nos frères musulmans, c'est de les initier à ce que, si Dieu est amour, nous, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer Dieu. C'est une démarche personnelle.
Merci, Ramzi, parce que tu disais que c'était ta mission. Moi, je pense aussi que c'est ta passion et tu fais ça avec beaucoup d'élan et beaucoup d'amour. Donc, merci beaucoup pour aussi cette discussion passionnante qui nous a fait nous promener jusqu'au Liban et en Afrique du Nord. Merci pour tout ça, je pense qu'on a beaucoup à méditer à partir de ce que tu nous as dit. Retrouvez-nous pour d'autres cafés avec bientôt sur la chaîne de Padre Vlog. À bientôt.
Merci beaucoup.